BFM Business présente.
Maintenant, la vraie question, c'est de mesurer l'ampleur du retournement.
On est quand même dans une situation économique qui est plutôt favorable. On n'ose pas le dire, parce que si jamais on dit ça, on passe pour
un fou. Je suis à peu près d'accord sur rien avec ce que je viens d'entendre.
Ça tombe bien. On veut du débat.
Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good evening, business.
19h02, voilà, on est en retard ce soir encore.
La faute à un débat animé.
C'est la faute de Jean-Marc Sylvestre, voilà, il est parti, donc on peut le dire. Good evening business qui continue jusqu'à 20h comme tous les soirs avec Audrey Tcherkov. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Guillaume et rebonsoir à tous.
Et donc dans l'actualité, ces chiffres que nous a donné l'INSEE ce matin qui nous confirment que 2022 s'est bien passé sur le front de la croissance en France, mais enfin quand même ça commençait sérieusement à ralentir à la fin de l'année, fallait s'y attendre. On va voir ça avec Thomas Asportas dans un instant.
Et puis deuxième journée d'action nationale contre la réforme des retraites. On attend désormais les chiffres qui commencent à se confirmer puisqu'on parle de
2,8 millions.
Mais ce sont les chiffres de la CGT.
Au plan national.
Absolument. Voilà, alors que va faire le gouvernement pour améliorer son projet? Comment les choses se présentent-elles au Parlement? Eh bien, on en parlera dans un quart d'heure avec notre deuxième invité, l'avocat Franck Morel, qui est ancien conseiller social d'Edouard Philippe.
Et puis, on poursuivra la discussion avec Pierre Ferracci, le patron du groupe Alpha, groupe de conseil, un spécialiste en relations sociales qui sera avec nous à 19h30. On surveille l'intersyndicale Défaut qui va discuter ce soir de la suite à donner au mouvement. Et puis on parlera d'Orpea parce qu'il se passe quelque chose d'assez incroyable. C'est la Caisse des dépôts et consignations qui devient actionnaire majoritaire d'Orpea. Est-ce qu'on peut parler de renationalisation si on grossit un peu le trait? On verra ça avec Mathieu Pechberti. Tout ça plus bien d'autres choses puisqu'on est ensemble toujours jusqu'à 20h.
C'est parti.
Good evening business, le journal.
Donc oui, les chiffres qui commencent à arriver depuis la manifestation parisienne, notamment la CGT, parlent pour l'instant de 2,8 millions de manifestants à travers toute la France. On attend bien sûr le chiffre des autorités. En tout cas, dès la mi-journée, Laurent Berger, le leader de la CFDT, estimait qu'il y avait plus de monde cette semaine dans les rues. Pourquoi? Parce que le gouvernement ne veut rien céder sur les 64 ans. Écoutez Laurent Berger.
C'est la démonstration de quoi? C'est la démonstration d'un rejet massif des 64 ans et surtout c'est la démonstration que le monde du travail, vous savez, ceux qui sont stigmatisés parce qu'ils seraient contre les 64 ans, de ne pas vouloir travailler, ce monde du travail dans sa profondeur, dans sa diversité, il est opposé aux 64 ans. Et donc c'est ça qui se manifeste dans tous les rassemblements ici à Paris, mais aussi partout en France, des gens de la métallurgie, des gens du bâtiment, de la propreté, des services à la personne, des hôpitaux, des collectivités territoriales, bref, dans sa grande diversité, le monde du travail qui dit non aux 64 ans.
Voilà Laurent Berger, 2,8 millions de manifestants, disent les syndicats. Le chiffre des pouvoirs publics va être intéressant à suivre quand même, Audrey, tout à l'heure.
Hein. Oui, absolument. Alors, toujours est-il qu'au final, ça reste encore une mobilisation très forte, parce qu'il y a eu, enfin, il faut bien le dire, une longue montée vers ce cortège libératoire. Maintenant, le sujet, c'est ce qui va se passer au Parlement. Alors, peut-être ce qu'on a reproché au gouvernement, c'est-à-dire de ne pas avoir taxé les super-profits, de ne pas avoir été sur ce terrain-là, peut-être que ça peut être justement la variable d'ajustement si le gouvernement se décide à demander plus aux entreprises.
C'est partie des sujets peut-être sur lesquels le gouvernement pourrait lâcher, bien sûr. On suivra ça dans les prochains jours, les prochaines semaines, évidemment. 19h05, les chiffres de l'INSEE donc, qui sont tombés ce matin, qui nous confirment un peu ce qu'on voyait venir. Oui, la croissance a été bonne et forte l'an dernier, 2,6%, mais clairement, on sentait quand même à la fin de l'année que ça commençait sérieusement à ralentir. Thomas Asportas.
Les résultats sont meilleurs, effectivement, que ce qui était prévu. L'économie, au départ, elle devait se contracter en fin d'année de 0,2%, mais finalement, elle a progressé de 0,1%. Et sur l'ensemble de l'année, la prévision de l'INSEE, c'était 2,5. Finalement, on a fait 2,6. Ouais. 2,6, c'est ce qui était attendu par la Banque de France. Et c'est juste en dessous de la prévision de Bercy qui vise 2,7%. Et juste, parce que là, bon, on se chamaille à 0,1% près, mais juste pour qu'on remette quand même les choses en perspective, parce que les chiffres veulent plus dire grand-chose depuis le début de la pandémie, faire en France 2,6% de croissance, c'est un très bon score. On n'avait pas fait ça depuis quasiment 20 ans. Et c'est d'autant plus fort qu'on a quand même une guerre aux portes de l'Europe et un choc inflationniste et énergétique majeur. Donc, l'année dernière, l'économie, elle a fait mieux que résister. Résister, c'était juste être un peu positif. Elle a progressé et bien progressé.
Mais comment l'expliquer cette belle performance de 2,6%
Après, il ne faut pas se voiler la face. Si 2022 a été une bonne année, c'est avant tout parce qu'elle a été portée par 2021. Ouais. Le rebond post-Covid a été tellement fort que ça a encore tiré la croissance l'année dernière avec un acquis de croissance autour des 2%. Cet élan, maintenant, évidemment, il est fini et toute la question, c'était de savoir comment allait se comporter l'économie sans se vendre dans les voiles et face au choc énergétique et inflationniste. Eh ben, on a la réponse depuis ce matin. On a évité la contraction parce que plusieurs moteurs de l'économie ont mieux tenu que prévu. La production industrielle, les industriels craignaient à l'automne une chute de 10% au quatrième trimestre. Finalement, la production n'a reculé que de 0,5. L'investissement des entreprises, oui, s'est replié par rapport au troisième trimestre, mais il a quand même encore continué à progresser de plus de 1%. Et enfin, le commerce extérieur a une contribution positive. Ça n'arrive pas tous les jours, mais c'est ce qui s'est produit en fin d'année avec plus d'exportations que d'importations.
Bon, pour le moment, ça tient. Et on a des bonnes nouvelles du côté de l'inflation aussi, apparemment, Thomas.
Eh bien oui, parce que certes, l'inflation a légèrement progressé en janvier par rapport à décembre. On est passé de 5,9 à 6%. Mais c'est une bonne nouvelle parce que la prévision de départ, c'était pas 6%, c'était 7%. Ouais. On devait faire 6,6 en décembre, 7 en janvier. Finalement, on a fait 5,9 et 6. Donc, on est quand même un ton en dessous. Et 6% d'inflation, en gros, c'est la moyenne qu'on observe depuis le mois de juillet dernier. Donc, la poussée d'inflation qu'on craignait en ce début d'année, elle n'a pas eu lieu. Et on peut, au contraire, penser que ce fameux pic de l'inflation, bah, il est peut-être enfin derrière nous.
Voilà, Thomas Asportas avec nous tout à l'heure sur BFM Business. Vous achetez ce sentiment d'optimisme, cette résilience de l'économie française? Tout n'est pas tout blanc non plus, quand même.
Oui, alors je pense que Thomas a raison de mettre l'accent justement sur le verre à moitié plein parce que échapper à la récession, non, ça ne veut pas dire que l'on va rebondir fortement et que en réalité, si on regarde à l'échelle internationale, les trois locomotives économiques mondiales, que ce soit les États-Unis, la Chine ou l'Europe, s'en sortent plutôt très bien. La seule grosse difficulté, elle va être pour le Royaume-Uni, qui est le pays parmi les économies avancées qui sera le seul à rentrer en récession cette année.
Il y a passé 3 ans de Brexit, hein, et 3 ans après le Brexit du côté du Royaume-Uni, évidemment. Dans l'actualité des entreprises, je vous le disais, dénouement dans le dossier Orpea, parce que ça a été annoncé tout à l'heure, la Caisse des dépôts et consignations va devenir actionnaire majoritaire d'Orpea, 50,2% du capital. Est-ce qu'on peut parler de nationalisation de fait, si on grossit un peu le trait? C'est la question qu'on posait à Mathieu Pechberti tout à l'heure. Écoutez.
Écoutez, on attend effectivement la confirmation dans les heures qui viennent, mais on est tenté effectivement de dire que c'est une forme, une sorte de nationalisation, puisque la Caisse des dépôts va détenir un petit peu plus de 50% du capital d'Orpea. Alors, en réalité, elle ne sera pas seule. La Caisse des dépôts est également alliée à deux assureurs mutualistes, la MAIF et la MACSF, qui est les mutuelles notamment des professionnels de santé et des soignants, et donc c'est très important pour Orpea et évidemment pour cet assureur. Ensemble, à trois, ils vont injecter 1,2 milliard d'euros et prendre donc un petit peu plus de 50% du capital d'Orpea. Ça, c'était pour, on va dire, la restructuration du capital de la société. Et puis, il y a aussi des efforts qui ont été consentis, évidemment, par les créanciers. Orpea croule sous une dette de plus de 9 milliards d'euros. Une partie des créanciers va abandonner environ 2/3 de sa dette. Au total, on estime que environ 1/3 de la dette d'Orpea sera effacée pour permettre à l'entreprise, en tout cas, de continuer, puisqu'il y avait un risque de problème de liquidité qui s'annonçait pour le deuxième trimestre. Donc, il y avait véritablement urgence à trouver un accord qui intervient après de longues semaines de négociations, de bras de fer très intenses. Et puis, ça s'est dénoué, effectivement, il y a quelques heures, la nuit dernière et puis le week-end dernier. En tout cas, l'arrivée de la Caisse des dépôts va pouvoir, en tout cas, c'est ce que vend à la fois Orpea et la Caisse des dépôts, permettre de calmer un petit peu la situation. Évidemment, les scandales de maltraitance des patients qui ont été révélés par le livre de Victor Castanet, Les Fossoyeurs. L'objectif de la Caisse des dépôts, c'est d'embaucher massivement. C'est également ce qui a été annoncé par Orpea, qui prévoit environ 9000 embauches et titularisation de CDD en CDI, hein, donc il y a un petit peu des deux l'année prochaine, donc c'est un montant important, avec en contrepartie des exigences financières moins élevées afin effectivement de se concentrer sur les soins des 255 000 patients du groupe dans le monde.
Voilà, la Caisse des dépôts et consignations qui devient donc actionnaire majoritaire d'Orpea. Mathieu Pechberti avec nous sur BFM Business. 19h11. On retourne sur les marchés tout de suite. Je vous rappelle la clôture à la Bourse de Paris. Une séance pour pas grand-chose finalement, puisqu'on a terminé en hausse de 0,01%. C'est dur de faire plus, s'équilibrer. 7082 points pour le CAC 40. Bonsoir Sabrina, on vous retrouve depuis New York où apparemment on est dans le vert.
Bonsoir.
Ce soir.
Oui, c'est un petit peu plus dynamique que chez vous, avec des marchés qui grimpent. à la mi-séance. On est sur une progression de plus de 1% sur l'indice Nasdaq à 11 516 points. Le S&P 500 plus 0,8%. Le S&P 500 qui est en passe d'enregistrer son meilleur mois de janvier depuis 2019 avec une progression de plus de 4%. Une progression de plus de 4% aussi pour l'ensemble de ce mois de janvier pour l'indice Dow Jones et de 9% pour l'indice Nasdaq. Ça se passe plutôt bien malgré ce contexte assez particulier. Le Dow Jones plus 0,4% avec les prévisions du FMI qui ont été rehaussées pour cette année. Les marchés qui attendent bien sûr l'issue de la réunion de la réserve fédérale américaine demain. Des marchés qui attendent une hausse de 25 points de base. Des résultats d'entreprise. Il y en a eu beaucoup aujourd'hui. En attendant la tech, vous avez General Motors qui a publié des chiffres nettement supérieurs aux attentes de la communauté financière sur ce trimestre écoulé. Retour de la demande. Signe de normalisation de ce secteur automobile avec un chiffre d'affaires qui est à plus de 43 milliards de dollars sur le trimestre écoulé. Des prévisions également très optimistes et un titre qui en profite largement. General Motors est en hausse de 8% actuellement. On est à 39 dollars sur ce titre. Belle progression également pour UPS dans la livraison qui a publier des chiffres supérieurs aux attentes et qui en profitent là aussi avec un gain de pratiquement 5%. Ça se passe un tout petit peu moins bien pour McDonald's. En revanche, malgré des chiffres supérieurs aux attentes sur son trimestre écoulé, mais des prévisions assez prudentes. Du coup, le titre McDonald's est en baisse de 2% dans une tendance donc positive. Encore une fois, ça se passe bien sur ces marchés américains pour terminer ce mois de janvier. Le Dow Jones à 33 866 points, le S&P 500 4 050 points et le Nasdaq affiche une hausse de tout juste 1%.
Merci beaucoup Sabrina. On va vous retrouver durant toute la soirée pour faire le point sur cette fin de séance du côté de Wall Street. 19h13, 2,8 millions de manifestants à travers toute la France. Ça, c'est ce qu'annonce la CGT. On attend le chiffre du ministère de l'Intérieur, bien sûr. Quelle est l'étape d'après pour les syndicats? Pour le gouvernement, on en parle avec l'avocat Franck Morel. Il est ancien conseiller social d'Edouard Philippe du temps où il était à Matignon. Il est avec nous dans un instant. À tout de suite.
Good evening business. Ils font l'écho.
Notre deuxième invité est avocat, c'est l'ancien conseiller social d'Edouard Philippe à Matignon. Bonsoir Franck Morel.
Bonsoir Monsieur Morel.
Alors, les chiffres de la mobilisation de ce soir commencent à tomber. Pour le moment, on n'a que le chiffre de la CGT qui parle de 2,8 millions de personnes dans les rues. Est-ce que vous dites qu'on est au niveau de 2010, ce qui était vraiment l'objectif espéré de l'ensemble des syndicats?
Ça ne me surprendrait pas, puisque si on fait le parallèle avec 2010, on a eu 14 manifestations en 2010, dont 4 ont franchi la barre des symboliques du million de personnes. Et en revanche, la différence avec 2010, c'est que on était allé crescendo avec un pic qui se situait à peu près au moment des débats parlementaires. Donc on avait démarré, la première manifestation en 2010 n'était pas au niveau de la première manifestation de celle du 19 janvier. Donc je ne serais pas surpris, on attend les chiffres du ministère de l'Intérieur sur les manifestations de ce jour, mais je ne serais pas surpris que ce chiffre soit au moins autant élevé et peut-être plus que celui de la manifestation du 19 janvier dernier.
C'est-à-dire 1 million, alors c'était 1,12 million de mémoire le 19
janvier. C'était
1 120 000,
130 le 19 janvier. Oui. Et comme point de repère, on a un point de repère psychologique qui est intéressant, c'est qu'en 2010, le record a été atteint dans le domaine social, puisque la manifestation la plus importante a réuni 1 230 000 personnes le 12 octobre 2010, c'est-à-dire vraiment au moment du pic. Alors, on doit s'attendre vraisemblablement, au vu de la dynamique qui est en cours, on doit s'attendre vraisemblablement à ce qu'il y ait, comme en 2010, plusieurs manifestations d'ampleur.
Alors, une petite différence concernant aujourd'hui par rapport à 2010, c'est que apparemment, c'est quand même déceptif sur le nombre de grévistes, moins de grévistes aujourd'hui qu'il n'y a qu'un jour, mais plus de manifestants.
Plus de manifestants. Après, on va voir avec le calendrier des débats parlementaires. Il n'est pas impossible qu'au moment du moment le plus intense des débats parlementaires, on ait une montée en gamme, là encore, du nombre de manifestants. Ce qui est compliqué pour le gouvernement, c'est que comme ça l'avait été d'ailleurs en 2010. J'ai eu l'occasion, il n'y a pas très longtemps, d'en parler avec un ancien ministre avec qui j'ai eu l'honneur de travailler, qui était Rick Wirth, qui était le ministre du Travail en charge de cette question en 2010, qui me racontait effectivement, avec qui on avait pu échanger, à quel point ça avait été difficile et qu'il avait fallu tenir, justement. Il nous disait 14 manifestations, c'est beaucoup.
C'est beaucoup,
et il faut tenir quand on a 14, 1, 2, 3, 4...
Là, d'ici la fin des travaux parlementaires, a priori le 26 mars, est-ce qu'on a le temps d'enchaîner 14 manifestations avec l'imminence des vacances scolaire,
C'est pas impossible.
Qui peuvent casser la dynamique quand même.
Non, après, c'est toute la stratégie des syndicats de trouver le bon cadencement le bon rythme effectivement des manifestations pour arriver à maintenir la flamme et à maintenir...
Et la stratégie Franck Morel en face du gouvernement qui est absolument. Aussi de réduire la durée des débats bien et sûr. De faire passer cette réforme par ordonnance.
Ah ben bien sûr, vous avez la stratégie du gouvernement qui a choisi le véhicule du projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif, qui fait l'objet de textes constitutionnels particuliers et notamment un texte constitutionnel spécifique qui est l'article 47.1.
Voilà, 47.1.
Cité, hein, récemment.
Et pas le 49.3 qui était trop impopulaire.
Le célèbre 49.3, effectivement. Article 47.1 qui permet de limiter à 20 jours à l'Assemblée puis à 15 jours au Sénat, effectivement, la durée des débats parlementaires et ensuite, effectivement, de rendre applicable le dispositif.
Mais pardon, je vous pose la question. Les vacances scolaires ne peuvent pas casser l'élan, pour vous?
Si, les vacances scolaires peuvent nuancer l'élan.
Il faut partir derrière, quoi. Je
bien évidemment, les vacances scolaires peuvent nuancer l'élan. Et je crois qu'il y a une intersyndicale qui est en cours de réunion et il est vraisemblable que l'intersyndicale va sans doute examiner les bonnes stratégies en termes de temporalité, en termes de cadencement, en termes de moyens d'action par rapport à ça. Donc de part et d'autre, du côté des organisations syndicales comme du côté du gouvernement, il y a une gestion du temps qui est en cours avec le fait de trouver les bons moments pour poser un acte, les bons moments pour évoquer un certain nombre de sujets. Ce qui est compliqué du côté du gouvernement, c'est que, si vous me permettez l'expression, il a brûlé relativement pas mal de cartouches dont il disposait, puisque le projet d'Emmanuel Macron, c'était de décaler l'âge légal de départ en retraite à 65 ans. Oui. Et dans les compromis qui étaient envisageables, figurait précisément le fait de ne pas opter pour 65 ans, mais pour 64, avec accélération de la réforme dite Touraine, de l'élévation du nombre de trimestres. Ça a été fait. Donc cette cartouche... elle a été utilisée.
Oui.
Il n'y a pas beaucoup de cartouches qui restent.
Alors, celle qui reste, si je peux me permettre, c'est celle des entreprises. Parce que ce qu'on a aussi beaucoup reproché au gouvernement, c'est de ne pas avoir été sur le terrain des super profits. Oui. Est-ce que, justement, demander plus aux entreprises, ce n'est pas quelque chose qui pourrait adoucir le débat?
C'est pas dans l'ADN.
Super profits ou hausse de cotisation.
C'est pas dans l'ADN du gouvernement. Et il a raison, c'est pas dans son ADN, parce que précisément, Emmanuel Macron, depuis sa première élection, et ses différents gouvernements, ont justement tout fait pour maintenir la compétitivité de notre économie, et qui passait notamment par le fait de ne pas alourdir les charges et ne pas alourdir les contributions pesant sur les employeurs, sur les entreprises.
C'est-à-dire qu'à 10, si vous relevez un peu les cotisations, ça suffit à faire rentrer les milliards qui vont justement permettre...
Oui, sauf que c'est trop simple. Ça marche pas comme ça, parce que rehausser les cotisations, c'est aussi pénaliser la compétitivité de notre économie, et puis c'est un cercle infernal, c'est-à-dire, on rehausse les cotisations, du coup, on pénalise la compétitivité, du coup on pèse sur la croissance, et du coup les choses deviennent encore plus compliquées, et du coup il est à nouveau nécessaire de rehausser les cotisations. Donc c'est un cercle vicieux dont le gouvernement ne veut pas, et il a raison.
De toute façon, vous dites qu'il n'y a plus beaucoup de cartouches aujourd'hui pour le gouvernement, mais absolument. Dans la mesure où la bataille de l'opinion elle est perdue de toute façon, à quoi bon aller encore disséminer ici ou là des concessions qui vont surtout avoir pour effet de diminuer l'impact financier de la réforme et qui ne changeront pas la perception?
Je suis d'accord avec je suis d'accord avec vous. La question peut se poser en ces termes, c'est-à-dire on peut se dire,
mais on peut se dire, on passe en force.
Si on lâche telle petite mesure ou telle bricole, entre guillemets, ça ne changera pas fondamentalement l'état de l'opinion publique. Après, il y a une gestion des débats parlementaires, malgré tout. Il y a une gestion de cette fameuse majorité relative et du fait que le nombre des parlementaires républicains qui sont en faveur officiellement de la réforme est en train de s'étioler un tout petit peu. Donc, je pense que les conseillers parlementaires à Matignon, à Bercy, rue de Grenelle, vont avoir un boulot assez dense, consistant à opérer une comptabilité extrêmement précise, extrêmement pointue.
Si au pire il faut passer par le 49.3, qu'est-ce que ça change? À ce stade, qu'est-ce que ça change, quoi?
Ça change la dramaturgie et ça change le.
Ah, mais ça change aussi beaucoup pour Gérald Darmanin qui souhaite faire passer évidemment son projet sur l'immigration.
Alors, ça peut avoir des effets collatéraux sur les autres textes et notamment le texte immigration, c'est pas impossible. Mais surtout, ça change la dramaturgie du déroulé des opérations.
Oui.
Parce que, évidemment, il y a aussi quelque chose sur lequel il faut être attentif, c'est qu'on voit bien que ce qui se joue en ce moment, c'est une bataille autour de la réforme des retraites, mais c'est aussi une bataille dans le cadre d'un pays qui reste traumatisé par la crise des gilets jaunes, dans le cadre d'un pays dans lequel on a en ce moment des tensions inflationnistes. Alors certes, un pays qui a réussi à réduire drastiquement le chômage, et ça on ne le dit pas assez souvent, comme jamais depuis plus de 10 ans. On est arrivé, on flirte avec les 7% de taux de chômage, qui était un objectif qui a été atteint. Mais force est de constater qu'on a un climat social qui reste encore très très lourd, et donc qui peut s'embraser. Et donc je pense que la gestion de la dramaturgie, elle est aussi importante pour cela. Elle n'est pas uniquement importante pour le fait d'aboutir, de réussir à faire adopter la réforme des retraites, ce qui est éminemment nécessaire, mais elle est aussi importante pour suivre, comme le lait sur le feu, précisément, toutes ces tensions.
Mais et concrètement, faire en sorte qu'elle ne dérive pas. Est-ce que concernant les carrières des femmes, les carrières des seniors sur la pénibilité, on peut s'attendre à des choses nouvelles lors du débat au Parlement ? Alors, je précise
c'est
aussi.
Trois sujets différents.
Mais oui, mais ce sont les trois sujets qui embrasent un peu le climat social. Alors, sachant que je précise que les dispositifs de pénibilité qui viennent enrichir aujourd'hui la réforme, il y a quand même beaucoup d'ajouts qui, en fait, sont des dispositifs qui avaient été supprimés lors du premier quinquennat. On marche un peu sur la tête.
Non, pas tout à fait, si vous me permettez. Alors, je pense qu'il y a trois sujets de nature différente et sur lesquels, à mon sens, les marges de manœuvre ne sont pas de même nature. Sur la question des femmes, on oublie de mentionner que la réforme par elle-même ne produit pas d'inégalité entre les femmes et les hommes. On a déjà une durée de vie à la retraite qui est beaucoup plus élevée, qui est de 26 ans à peu près pour les femmes que pour les hommes, alors qu'elle est de 22 ans et demi à peu près pour les hommes. Et puis, il va y avoir un certain nombre d'évolutions qui vont être sous-tendues par la réforme et qui vont conduire précisément, au contraire, à ce que le niveau des pensions des femmes sera légèrement plus élevé que celui des hommes et augmentera plus vite que celui des hommes. Donc, sur la question des femmes, je pense qu'il faut avoir en tête ces choses-là. Alors, il y aura peut-être un certain nombre de choses qui vont être examinées sur les questions de trimestre en matière de congé maternité, de modalités en la matière, ou sur la question des congés parentaux.
Enfin, juste, pardon, mais à partir du moment où on ne traite pas la vulnérabilité principale des femmes, c'est-à-dire leur manque de présence dans l'emploi, évidemment que cette réforme, quand elle entérine l'augmentation du nombre de trimestres pour l'ouverture des droits, évidemment elle vient creuser les inégalités entre les femmes et les hommes.
Non, je m'inscris en faux là-dessus. Pas forcément. On va constater en moyenne que la durée de départ en retraite des femmes sera légèrement plus faible que celle des hommes. Et par ailleurs, vous avez un dispositif quand même qui protège, c'est le fait que l'âge de fin de la décote n'est pas décalé, les 67 ans. Et donc, si vous n'avez pas tous vos trimestres, de toute façon, vous êtes rattrapé, entre guillemets, par cet âge de fin de la décote. Et ça joue beaucoup pour les femmes. Et ça jouera beaucoup pour les femmes. Donc, je pense que sur la question des femmes, il n'y aura pas beaucoup d'évolution. En revanche, il y a un sujet, et ça, c'est un sujet qui me tient à cœur, j'ai eu l'occasion souvent de m'exprimer avec vous à son sujet, c'est sur l'emploi des seniors. Je pense que sur l'emploi des seniors, il y a des marges de manœuvre et on pourra aller beaucoup plus loin sur ce texte ou sur un autre texte, parce que se posera en revanche la question de ce qu'on appelle le cavalier, c'est-à-dire de la place des dispositions dans ce texte ou dans un autre texte. Mais là-dessus, il y aura des marges de manœuvre.
On est au bout, malheureusement, Franck Morel, mais il y en aura d'autres, viendra nous voir très régulièrement, bien sûr, pour continuer à suivre ce dossier qui n'a pas fini de nous accaparer dans les prochains jours, les prochaines
semaines. En effet, puisque les syndicats maintenant appellent les raffineries notamment à mobiliser tout le pays.
Ça, c'est pour la semaine prochaine. Merci beaucoup, Franck Morel, avocat, ancien conseiller social d'Edouard Philippe à Matignon. Merci beaucoup d'être passé nous voir et à très vite, avec plaisir, sur notre plateau pour commenter toutes ces actualités. 19h27, nous marquons une petite pause, rappel des titres, et puis on va continuer à suivre ce dossier des retraites, évidemment. On attend les chiffres officiels des pouvoirs publics. Et puis on attend aussi l'éventuelle réaction des syndicats qui sont réunis ce soir dans une intersyndicale du côté de Force Ouvrière, du siège de Force Ouvrière dans le 14e arrondissement de Paris. On suit tout ça, puis on continue de parler tout ça avec Pierre Ferracci dans un instant, spécialiste des relations sociales avec nous sur BFM Business.
À tout de suite.
BFM Business, l'info éco.
19h31 sur BFM Business. Faiza Younzi nous redonne les grands titres de l'actualité. Rebonsoir Faiza.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Forte mobilisation pour cette deuxième journée de protestation contre la réforme des retraites. 500 000 personnes ont défilé à Paris selon la CGT, 90 000 selon la police. Un mouvement très suivi dans les raffineries et les dépôts de carburant de Total Energy, avec au moins 75% de grévistes de sources syndicales. Chez EDF, on comptait 40% de grévistes à la mi-journée, ce qui a provoqué d'ailleurs une baisse de puissance électrique de 1200 MW, l'équivalent d'un réacteur nucléaire. Également dans l'actualité, plusieurs indicateurs sont tombés aujourd'hui. D'abord, l'inflation qui accélère de nouveau en France en janvier. Selon l'INSEE, les prix ont augmenté de 6% après 5,9% en décembre. Une légère hausse due à l'accélération des prix de l'alimentation et de ceux de l'énergie. L'économie européenne résiste au quatrième trimestre. Elle a ralenti, mais elle échappe à la récession avec 0,1% de croissance du PIB contre une contraction initialement anticipée par Eurostat. Sur l'ensemble de l'année 2022, la croissance de la zone euro atteint 3,5%. L'État à la rescousse d'Orpea, la Caisse des dépôts et consignations, va prendre le contrôle du spécialiste des EHPAD. Après avoir conclu un accord avec les créanciers, elle pourrait prendre 50,2% des parts avec ses partenaires, les assureurs Maïf et MACSF. Orpea, très endettée, peinait à sortir la tête de l'eau depuis le scandale de la maltraitance de ses résidents. Alors cet accord valoriserait l'entreprise à 1,15 milliard d'euros. Airbus et Qatar Airways enterrent la hache de guerre selon Reuters. Les deux groupes seraient sur le point de conclure un accord pour mettre fin à leur litige sur les A350. Ils se livraient une bataille juridique depuis plusieurs mois maintenant. La compagnie aérienne accusant Airbus de défaut de conception sur ses appareils. Les dernières discussions, notamment au niveau politique, auraient permis d'apaiser les tensions. Et on termine avec Pfizer, pessimiste pour cette année. Le groupe pharmaceutique anticipe une forte chute des ventes de son vaccin contre le Covid. Alors que les commandes passées par les gouvernements ralentissent, le groupe s'attend à réaliser 13,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour le vaccin en 2023. C'est quasiment trois fois moins qu'en 2022. On jette un coup d'œil à la Bourse de Paris, le CAC 40 quasiment à l'équilibre ce soir. Avant les décisions de la Fed demain et celles de la BCE après-demain, elle clôture à 7082 points.
Merci beaucoup Faiza, 19h34, c'est l'heure de la grande interview sur BFM Business.
Good evening business, la grande interview.
On va continuer bien sûr de parler de ces journées d'Action nationale contre les retraites.
Évidemment, Guillaume.
André, évidemment, on attend les chiffres des pouvoirs publics. 2,8 millions de manifestants à travers toute la France, dit la CGT. On attend aussi peut-être une prise de parole de l'intersyndicale, hein, puisque les syndicats sont réunis.
Qui va arriver, en effet.
Oui, qui pourra arriver d'ici quelques instants, puisque tous les syndicats sont réunis du côté du siège de Force Ouvrière à Paris, dans le 14e arrondissement. On parle de tout cela avec Pierre Ferracci, qui est notre invité. Bonsoir, Pierre Ferracci.
Bonsoir.
Bonsoir, expert en politique sociale, président du groupe Alpha. Le chiffre de 8 millions de la CGT. Vous attendez les chiffres officiels. Est-ce qu'il vous dit quelque chose d'ores et déjà, ce chiffre brut là, de la CGT?
Il me dit, mais je pense que les chiffres de la police confirmeront la tendance, que la mobilisation était plus forte que la dernière fois.
Oui.
Ce qui est un signe fort de la part des 8 organisations syndicales.
Ça vous paraissait gagné ou pas de faire plus?
C'était pas évident, mais on sentait quand même sur le terrain une tendance à une mobilisation plus forte dans les entreprises, notamment dans le secteur privé. Et donc, c'est quand même intéressant, même si certains mettront en avant qu'il y a un peu moins de grévistes dans la fonction publique, voilà. Notamment chez les enseignants.
Plus de manifestants.
Oui, voilà. Mais ça, c'est quelque chose que les syndicats devront gérer et qu'ils gèrent plutôt bien aujourd'hui. Il y a des problèmes de pouvoir d'achat aujourd'hui. Chez les enseignants, les salaires sont pas très élevés, par exemple, ou dans d'autres secteurs de la fonction publique. Donc c'est évident qu'une journée de grève, ça pèse lourd.
Qui plus est dans le contexte actuel, évidemment,
oui,
d'inflation.
Peut-être que certains fonctionnaires ont pris une journée de RTT pour aller manifester, mais en tout cas, la manifestation de l'opposition au projet est beaucoup plus forte encore que le 19 janvier. Et ça, c'est un peu inquiétant pour le gouvernement, en plein débat parlementaire.
Mais qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous dites que la dynamique, elle est comparable à 2010?
Moi, je pense qu'on est dans des eaux qui ressemblent à 2010 et qui pourraient aller même un petit peu plus loin. Parce que n'oubliez pas qu'il y a 8 organisations syndicales aujourd'hui qui sont ensemble. Alors, il était en 2010, il était un peu moins pendant la réforme à points qui a avorté, puisque la CFDT, puis la CFTC, l'UNSA étaient plutôt favorables au système à points. Là, on a quand même un mouvement profond. Et puis, on voit bien que même du côté de la CFDT, il suffit d'écouter Laurent Berger, il y a vraiment une opposition absolue à cette mesure d'âge et aux 64 ans. Donc, on ne sait pas aujourd'hui comment tout cela peut tourner. Et je crois que le gouvernement serait... il serait bien qu'il réfléchisse à prendre l'initiative. Je pense que le débat au Parlement, d'abord, ne doit pas être court-circuité. Alors, il y a le problème du 47.1.
Bah oui, c'est ça,
Qui peut ressembler pour certains au 49.3, même si tout le monde ne rentre pas
dans cette situation. On réexplique juste, le 47.1, donc, va réduire la durée des débats à 50 jours, c'est ça?
Tout à fait.
Si c'est pas voté sous 50 jours, ça passera tout par ordonnance.
Et donc, ensuite, après, avec un rôle de la commission paritaire, avec une majorité LR au Sénat, dont on sait qu'elle est favorable aux 64 ans, qui pourrait jouer un rôle clé.
Mais je crois que quand il y a 8 syndicats, moi je fais des comparaisons sans remonter dans la nuit des temps, c'est 2018, hein, les Gilets jaunes. Quand les Gilets jaunes descendent dans la rue, le gouvernement à un moment donné cède, et cède de façon assez substantielle. Hein. Il y a eu 10 milliards, puis 17 milliards de plus, enfin 17 milliards qui ont été mis dans la balance. Là, vous avez 8 organisations syndicales qui s'expriment de façon forte et unanime depuis un moment. Je pense qu'il faut les écouter, et moi je vais aller à rebours de tout ce qui se fait en ce moment dans le débat parlementaire, mais je pense qu'il faut discuter avec les syndicats. Bien sûr que la démocratie politique, au final, va l'emporter sur la démocratie sociale, et c'est le Parlement qui va trancher. Mais quand vous avez 8 syndicats comme ça qui sont vent debout, bah, il faut ouvrir, non pas une concertation, mais moi j'ose dire une négociation, et discuter, même si on a l'impression aujourd'hui que les points de vue des uns et des autres sont totalement figés, et que les uns ne veulent pas des 64 ans, et que le gouvernement ne veut pas céder là-dessus.
Nous avons à l'instant le chiffre de la police qui nous parle d'1,272 million manifestants à travers toute la France.
1,120,000 la dernière fois. Alors je ne vais pas commenter les deux extrêmes. Mais... on a sans doute au milieu sans doute le bon chiffre. Même si j'ai vu qu'une structure que vous connaissez bien, c'est peut-être un peu ridiculisé ce soir sur la manifestation parisienne. Mais je crois qu'il y a une initiative à prendre du côté des syndicats forte. On ne peut pas considérer que la concertation depuis le mois de septembre a porté ses fruits quand on voit cette
unanimité. Non mais c'est ça, parce que vous parlez de discussion, mais les discussions et la concertation, elle a lieu depuis 5 mois, avec 3 cycles justement qui ont été en lien avec tous les sujets brûlants, que ce soit les seniors, la durée, etc. Et finalement, ça n'a donné à rien. Et
peut-être qu'il faut aller plus loin, parce qu'à force de dire qu'il n'y a qu'une façon de redresser... Moi, je vais vous dire, les comptes du système de retraite sont en déséquilibre. Ça, personne ne le nie.
Oui.
Le seul problème, c'est d'abord le diagnostic sur en valeur absolue sur ce déséquilibre. Là, il y a déjà débat entre économistes et économistes de qualité, hein, de part et d'autre. Vous savez, quand je vois Jean-Hervé Lorenzi, qui est le fondateur du Cercle des économistes...
Qui est avec nous tout à l'heure.
Voilà. Qui est plutôt... il ne m'en voudra pas de dire qu'il est plutôt dans la logique macronienne ou macroniste. Bon, qui dit que si on relevait de 10 points... le taux d'emploi des seniors, on réglerait pour l'essentiel le problème. Il ne dit pas que ça, mais il dit d'abord ça. Ça, c'est ce que beaucoup disent. Je pense que dans ce débat, il y a 2 erreurs de la part du gouvernement. Une erreur de préparation et une erreur de communication. L'erreur de préparation, c'est, moi je cite souvent le cas des pays du Nord, qui en matière de démocratie sociale sont pas les plus mauvais. Quand la Finlande a fait bouger l'âge de la retraite, a déporté l'âge légal, elle a demandé aux partenaires sociaux pendant 3-4 ans ou 3 à 5 ans de négocier sur les seniors, sur la pénibilité, sur la charge de travail de seniors, sur les fins de carrière, sur le pouvoir d'achat. Quand les salaires bruts se bloquent pour les seniors, on peut bouger les salaires nets en bougeant les cotisations. Il y en a qui disent pourquoi pas baisser les cotisations des seniors, quitte à raisonner à cotisation constante en relevant d'autres cotisations. Cette préparation n'a pas eu lieu. Je pense que le gouvernement, quand il a abandonné le système à points, qui entre parenthèses frustrait un peu la CFDT et puis les deux confédérations qui étaient plutôt favorables à ça, même si d'autres étaient à l'opposé, quand il a abandonné le système, aurait dû faire cette préparation.
Pierre Ferracci, en fait, il était plutôt bien accepté. Là où ça a commencé à se compliquer, c'est quand on a commencé à parler de l'âge pivot.
Oui, mais bien sûr, mais on en revient toujours au même problème. Il y a différentes façons de trouver les équilibres du système de retraite, y compris quand on parle de système.
Je vous interromps à l'instant, pardon Pierre Ferracci. On va aller au siège de Force Ouvrière. Les syndicats sont en train de s'exprimer, donc on va peut-être avoir des infos sur les prochaines éventuelles journées de mobilisation. Je ne sais pas si on a la connexion avec le siège de Force Ouvrière. Voilà, c'est une représentante syndicale.
Jeunes et retraités se sont mobilisés par la grève et ou ont manifesté sur l'ensemble du territoire. Cette mobilisation d'ampleur fait suite à celle du 19 janvier qui avait rassemblé plus de 2 millions de personnes. La jeunesse s'est particulièrement mobilisée aujourd'hui pour refuser la précarité grandissante que promet le gouvernement. La population soutient les revendications des organisations syndicales qui s'opposent au recul de l'âge légal de départ à 64 ans et à l'allongement de la durée de cotisation. 9 travailleurs sur 10 rejettent la réforme. 2/3 de la population soutiennent les mobilisations. Personne ne s'est laissé tromper par la propagande du gouvernement. Les organisations syndicales dénoncent ainsi le mail du ministre de la Transformation et de la Fonction publique envoyé tant à des agents publics qu'à des salariés de droit privé, présentant une liste d'arguments en faveur de la réforme des retraites. Les organisations syndicales n'acceptent pas les propos tenus par la Première ministre ce dimanche, indiquant, selon elle, l'âge de départ à 64 ans n'est plus négociable. Pour les organisations syndicales, le recul de l'âge de départ n'a jamais été négociable. Les propositions alternatives formulées par elles sont toutes restées lettre morte. Cela démontre le jusqu'au boutisme du gouvernement, sourd au rejet exprimé par la totalité des organisations syndicales et l'immense majorité des citoyens. Rien ne justifie une réforme aussi injuste et brutale. Le gouvernement doit entendre le rejet massif de ce projet et le retirer. L'intersyndicale appelle toute la population à se mobiliser par la grève et la manifestation encore plus massivement le mardi 7 février, puis le samedi 11 février, pour dire non à cette réforme. Elle appelle, d'ici là, à multiplier les actions, initiatives, réunions ou assemblées générales partout sur le territoire, dans les entreprises et services, dans les lieux d'études, y compris par la grève. L'intersyndicale se réunira le mardi 7 février au soir. Merci.
Voilà, Patricia Drevon, secrétaire confédérale Force Ouvrière. Deux nouvelles journées d'action, donc Pierre Ferracci, 7 et 11 février prochain.
Mais ce qu'on entend quand même, Guillaume, c'est que même si le gouvernement donne des choses sur les carrières longues, sur la pénibilité, sur les seniors, et fait des efforts, ça ne changera rien.
Les syndicats sont vent debout et vous avez noté que la deuxième journée de manifestation a lieu le week-end.
Oui.
Pour
oui.
éviter justement ce qu'on évoquait tout à l'heure, qu'il y ait des pertes de pouvoir d'achat liées au fait qu'une journée en semaine, pour certains, ça nécessite de poser une journée de grève. Donc ça, c'est plutôt habile et je pense qu'il y aura beaucoup de monde dans la rue le 7 et le 11.
Alors sachant qu'on sera dans les vacances scolaires. Hein.
Tout à l'heure. Il y a un problème de préparation. Emmanuel Macron a abandonné la réforme systémique, il a pris ses responsabilités. Mais surtout, sur les seniors, il faut préparer le terrain avant. Il ne l'a pas été. Vous savez, aujourd'hui, on parle de l'index des seniors. Si on l'avait testé pendant 3-4 ans, oui. on aurait bien vu s'il était efficace, s'il faisait bouger les entreprises. Faire bouger les entreprises, ça va être très long, très difficile. Culturellement, on met à la porte des seniors à partir de 55 ans dans beaucoup d'entreprises et de secteurs. Et ça, quand j'évoquais le problème de la Finlande ou d'autres pays du Nord, ça n'existe pas ailleurs. Et le relèvement du taux d'emploi des seniors, il est décisif. Si vous ne faites qu'allonger l'âge légal de départ à la retraite sans régler ce problème-là, vous allez voir encore beaucoup de seniors qui vont être au chômage, en invalidité.
Et puis, est-ce que vous êtes aussi d'accord pour dire qu'en fait, un index sans mesure punitive derrière, ça ne servira pas à grand-chose?
Un index, il faut que ça incite les entreprises et celles qui ne suivent pas. Il n'est pas normal qu'il y ait des sanctions.
Question, on va revenir à ces enjeux dans un instant, Pierre Ferracci, mais par rapport au calendrier 7 et 11 février, oui. on se posait la question tout à l'heure. Les débats parlementaires doivent s'achever le 26 mars, en théorie.
Oui.
Nous sommes à quelques jours, comme le rappelait Audrey, du début des vacances scolaires. Est-ce qu'il y a là, notamment à travers ces deux journées, ce qui pourrait suivre après, les moyens d'enclencher véritablement et d'enraciner un véritable mouvement pour vous? Ou alors, est-ce que les vacances de février peuvent constituer un obstacle pour les laisser?
C'est un défi pour les syndicats. Ça, c'est évident que les vacances perturbent un petit peu le jeu. Mais le fait qu'elles posent deux journées, dont une le week-end, montre bien qu'elles veulent sauter l'obstacle et qu'elles sont confiantes dans leur capacité à mobiliser beaucoup, beaucoup de monde. Vous savez, dans ce genre de mouvement, la deuxième manifestation est la plus importante. Soit vous chutez immédiatement, soit vous êtes en phase de progression.
Alors là,
si vous êtes en phase de progression, vous allez agréger d'autres acteurs demain.
Oui.
Alors après, il y a les vacances, il y a le problème du pouvoir d'achat avec des grèves qui pourront pas se mener partout là où ils voudront.
Oui.
Mais le fait de faire une manifestation du samedi est sans doute pour eux une bonne chose.
Autre question, on a entendu la fermeté encore ce soir de la secrétaire confédérale Force Ouvrière sur les 64 ans. Je vous entendais tout à l'heure parler d'initiative. Il faut une initiative de la part du gouvernement. Est-ce que vous pensez à l'impensable? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra que le gouvernement véritablement se pose la question de renoncer au relèvement de l'âge légal de 62 à 64 ans. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez concevoir?
Moi, je pense que... Alors, c'est difficile à concevoir aujourd'hui quand on voit la position ferme d'Elisabeth Borne et d'Emmanuel Macron. Moi, je pense que s'il y a une vraie discussion, concertation, négociation avec les organisations syndicales et patronales aussi peut-être, parce qu'il faut les mettre dans le jeu, si le gouvernement demande aux organisations syndicales de se mettre d'accord, ce qui n'est pas aussi facile que de contester la mesure des 64 ans, de se mettre d'accord pour des propositions alternatives pour rééquilibrer le système de retraite, parce que personne ne nie qu'il y a un problème de déséquilibre.
Ils vous parlent de hausse de cotisation.
C'est la dramatisation.
Ils vous disent aujourd'hui taxe super profit, ils vous parlent de hausse de cotisation.
Mais c'est la dramatisation, mais à juste titre, il y a beaucoup d'économistes, et moi je suis désolé, je fais partie aussi de ce courant-là, qui disent que le problème de déséquilibre, il est aujourd'hui sur l'ensemble des financements publics plus que sur le système de retraite.
Il faut remettre les gens au
je
travail.
Dis pas qu'il y a pas, je dis pas. Il faut aussi tenir compte de ce qui s'est passé pendant la pandémie et faire des économies, aller chercher des ressources ici et là. Et il y a sans doute d'autres façons d'équilibrer demain le système de retraite que celle qui passe aujourd'hui, qui est assez brutale, il faut bien le dire, et qui est considérée comme totalement injuste.
Mais en même temps, redemander encore une fois aux syndicats de faire des propositions, c'est remettre une pièce dans la machine, puisque c'est précisément ce qu'ils ont fait depuis le mois de septembre, octobre dernier. On reçoit toutes les semaines des représentants de syndicats sur ce plateau et ils nous disent, on a fait 1000 propositions et on n'a jamais été écoutés.
Bah, ce que les syndicats n'entendent pas, et ça on peut considérer que c'est à juste titre, c'est que à partir du moment où on s'écarte de la mesure d'âge de 64 ans, on n'est pas entendu. Oui. Et c'est ça qui est un petit peu dommage. Bon, il y a beaucoup aujourd'hui d'économistes ou de syndicalistes qui vous disent qu'on peut rééquilibrer le système de répartition en prenant d'autres mesures. Alors ça prend peut-être un peu plus de temps. Ce qu'on dit sur les seniors. Voilà. Il y a une vision aussi des tendances à long terme qui ne sont pas forcément partagées. Le gouvernement a fait une réforme assez brutale d'ailleurs de l'assurance chômage. Oui. Normalement, c'est pour aller au plein emploi. Le plein emploi, c'est 5% de chômeurs, c'est pas 7. Ben ça redresse les finances du système de retraite. Bon, il faut être cohérent à un moment donné. On va discuter d'une loi sur le plein emploi, je crois, dans quelques mois. Deuxièmement, le gouvernement parle de réindustrialisation. Bon, ça va prendre du temps, hein, parce qu'on a mis 20 ans pour désindustrialiser la France. On va mettre sans doute autant de temps pour la remettre sur les rails. Mais réindustrialiser, c'est améliorer la productivité. C'est dans l'industrie que se font pour l'essentiel les gains de productivité. Ben, si vous réindustrialisez, si vous améliorez la productivité, c'est aussi un élément de redressement des finances du système de retraite. Donc il y a tout un tas d'enjeux de ce type. Et puis il y a le travail des seniors. Je veux dire, on est encore à la traîne. Le problème, là où le gouvernement n'est pas crédible, c'est que la seule façon qu'on trouve en France de faire travailler plus longtemps les seniors, c'est de déporter l'âge légal. Ben, je suis désolé, il y a plein de mesures positives qui ont été prises dans d'autres pays où les gens acceptent de rester, certains très volontairement, d'autres avec un peu moins d'enthousiasme, mais parce qu'on a aménagé leurs conditions de travail, parce qu'on a aménagé leurs conditions de fin de carrière, parce qu'on a regardé les problèmes de pouvoir d'achat, parce qu'on l'a touché aux cotisations aussi, c'est pas un sujet tabou. Là, vous avez l'impression que tout est bloqué.
Mais on peut pas toucher aux cotisations. Quand on vous écoute, on comprend bien l'importance pour le gouvernement de devenir beaucoup plus pédagogue autour de cette réforme. Est-ce que finalement, la solution, ça n'aurait pas été de se concentrer uniquement sur le nombre de trimestres cotisés?
Ben, je crois que, alors certains syndicats le refusent aussi, puisqu'ils refusent à la fois de bouger la durée des cotisations et en même temps l'âge légal. Il y en a d'autres qui sont plus ouverts là-dessus. Voilà. En tout cas, moi je pense que passer par la durée des cotisations, c'est sûrement moins injuste que passer par l'âge légal, mais pour des raisons évidentes. Ceux qui rentrent sur le marché du travail à 23 ou 24 ans, ils sont moins touchés par le déport de 62 à 64 ans que ceux qui commencent beaucoup plus jeunes sur le marché du travail. Et ceux-là, ce sont les catégories les plus modestes. Ça, c'est un premier point.
Mais ça rapporte moins d'argent.
Pour le gouvernement, à partir du moment où on dit, ou certains disent, ou moi je dis en tout cas, que le problème est d'abord un problème de finances publiques en général, qui est réel aujourd'hui, on s'est beaucoup endetté, ben, vous savez, il y a des sujets qui sont tabous aujourd'hui, quand on entend le ministre de l'économie, Monsieur Le Maire, il va bien falloir les regarder autrement. Moi, je pense qu'on va devoir bouger les impôts demain. Les impôts des plus aisés, les impôts peut-être des entreprises les plus fortunées. Autrement, on n'y arrivera pas. Autrement, le poids
et traiter le sujet de l'évasion fiscale
sera trop sur les catégories les plus modestes. Et vous savez, il y a un autre enjeu dont on ne parle pas aujourd'hui, la transition écologique. Elle va être extrêmement coûteuse. C'est sûr. Quand vous regardez le rapport de Jean Pisani-Ferry qui a été mandaté pour étudier ce coup-là, et qui d'ailleurs, sur le problème des retraites, parle plutôt, lui, de durée de cotisation que d'âge légal. Ouais. C'était quand même lui qui était à l'origine du programme économique d'Emmanuel Macron. Mais quand vous écoutez Jean Pisani-Ferry, on sait que ça va coûter très cher. Quand on dit que ça va coûter très cher, qui va payer? Il va y avoir un problème d'équilibre. Si la transition écologique génère des inégalités sociales supplémentaires et qu'elle accompagne un mouvement sur l'assurance chômage et sur le système de retraite.
C'est la double peine.
Qu'on présente aujourd'hui, mais c'est la double peine. Ouais. Donc moi, je pense qu'il faut aborder le problème de façon beaucoup plus globale. Et à partir de là, quand je dis réunir les syndicats, les écouter sur la façon dont eux envisagent le retour à l'équilibre. Je ne connais aucun syndicat qui nie qu'il y a un déséquilibre. Simplement, c'est l'ampleur du déséquilibre et la façon de le traiter, à la fois dans la durée et selon les modalités adaptées, qui est en débat aujourd'hui. Et ce débat n'a pas encore...
Eux ne nient pas le déséquilibre, mais ni l'urgence d'une réforme, de la nécessité d'une réforme.
C'est pas mais si vous ne niez pas le déséquilibre, d'abord si vous le voyez plus bas que certains le disent, parce qu'on a entendu tous les chiffres.
Oui.
Moi, je ne m'y retrouve pas entre les 500 milliards en 25 ans dont parle Gabriel Attal et les 140 40 milliards en 10 ans dont parle la ministre. Et quand le corps est un très bel instrument, mais comme il évoque tous les scénarios à la fois, tout le monde y trouve ce qu'il a envie d'y trouver, y compris le Rassemblement National. C'est un peu difficile pour l'opinion publique de s'y retrouver. Donc il peut y avoir un débat sur le niveau de déficit pour les années à venir, il peut y avoir un débat sur les modalités de le traiter. Et ça, je pense que les syndicats ont raison de dire qu'ils n'ont pas été suffisamment entendus.
Le grand drame de tout ça, c'est qu'on a pris, on s'est focalisé sur ce relèvement de l'âge légal parce que c'est un totem, parce que c'est un symbole et qu'il y avait des visées politiques. On aurait annoncé une accélération encore plus marquée de la loi Touraine, vous n'auriez pas eu 1 million de personnes dans l'air aujourd'hui, monsieur.
Oui, mais ça renvoie à un scénario politique que vous connaissez bien. Ce qui est un peu paradoxal aujourd'hui, c'est qu'il y a 8 syndicats qui sont contre, avec la CFDT, qui était plutôt ouverte sur le système à points, avec d'autres, et qui n'ont pas l'air, en tout cas qui pensent ne pas être écoutés. Et c'est du côté des Républicains et d'Éric Ciotti qu'on trouve la façon de modifier un petit peu la réforme des retraites. Et je note d'ailleurs qu'une partie de la gauche, je dirais, des Républicains, Xavier Bertrand ou Aurélien Pradier, sont plutôt critiques sur le système qui est proposé. C'est un peu paradoxal, quoi. Donc on a un schéma politique où, effectivement, le gouvernement n'a plus la majorité à l'Assemblée. Il est obligé de composer avec les Républicains. Et ça donne effectivement une inclinaison qui n'est pas du goût de tous les syndicats. Et encore une fois, de tous les syndicats. Depuis 12 ans, ils n'avaient pas été ensemble dans la rue comme ça.
Est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas raté quelque chose avec Laurent Berger ? Pour vous, est-ce que c'est pas une des clés de
sur la réforme systémique
et puis il y a aussi en parler le rapport un peu particulier qu'ils entretiennent.
Rappelez-vous à l'époque, on savait très bien que le Premier ministre Édouard Philippe était plutôt pour une réforme paramétrique et lui parlait d'une fourchette de 64 à 67 ans. Oui. Emmanuel Macron est tombé de ce côté-là. Incontestablement.
Alors qu'il était contre au début. Hein.
Eh ben oui, il avait même tenu des propos, je me rappelle, dans le grand débat, qui ont été d'ailleurs soulignés par certains syndicalistes, où il disait d'ailleurs que si on ne traitait pas sérieusement le problème des seniors, c'était pas la peine de s'occuper de l'âge légal. Enfin, c'était assez cru. Je crois qu'il parlait même d'une démarche hypocrite, d'ailleurs, à l'époque. Donc, je pense qu'il était conscient de tout ça. Aujourd'hui, donc, il y a un double problème. Le problème des finances publiques en général, qui nécessite, à mon avis, y compris de revoir un peu notre fiscalité, peut-être temporairement. Et puis après, vous évoquez des rapports avec Laurent Berger. Je pense que Emmanuel Macron a globalement un problème avec les partenaires sociaux. Entre parenthèses, sur la question des seniors, j'aimerais entendre davantage le MEDEF et les représentants des entreprises, parce que dans les entreprises, on sait qu'on a beaucoup d'efforts à faire. Je parle aussi de la mienne, d'ailleurs. On est 900 salariés dans le groupe Alpha. Peut-être que sur les seniors, on peut faire mieux.
Globalement, on n'entend pas beaucoup les partenaires sociaux ces temps-ci. Enfin, le patronat sur cette réforme des retraites. Parce qu'il y a des divisions aussi au sein des instances patronales.
Sur les seniors, où on sait qu'on aura un obstacle très difficile à franchir, il est autant culturel que technique. Oui. Ça prendra des années. Il faut que les entreprises s'y attaquent fortement et peut-être avec des mesures à la fois incitatives et d'autres mesures coercitives. Oui. Autrement, on n'y arrivera pas. Déjà, ça va prendre du temps, mais s'il n'y a pas une impulsion forte du gouvernement, on n'y arrivera pas. Donc après, il y a le rapport aux partenaires sociaux. Là, il y a une occasion en or pour Emmanuel Macron de se remettre non seulement en relation forte avec Laurent Berger, mais avec l'ensemble des syndicats. Les partenaires sociaux, et en tout cas dans la partie des syndicats de salariés, ont eu l'impression, depuis le début du premier quinquennat, de n'être pas assez écoutés. Alors, sur le thème « il faut aller vite dans les réformes », on considère souvent que les syndicats sont des obstacles. Là, je pense qu'on va s'apercevoir bientôt que si on ne les écoute pas suffisamment, les gilets jaunes ou des formes de gilets jaunes ou des formes de bonnets rouges seront demain d'autres obstacles.
Et en même temps, avec une frontière extrêmement fine entre le fait de montrer qu'on est à l'écoute et donner un aveu de faiblesse.
Oui, mais vous savez, de temps en temps, être fort, moi j'aime bien, j'entends le courage, c'est de résister, même à la rue, même à l'opinion majoritaire. De temps en temps, le courage, c'est de se dire, on dit souvent, il n'y a pas de bon moment pour faire une réforme impopulaire. On n'est pas obligé de choisir le pire des moments. Oui. Pourquoi le pire des moments ? L'inflation, la guerre en Ukraine qui tétanise un petit peu tout le monde, la hausse du prix de l'énergie dont on ne sait pas comment elle va s'arrêter, le coût de la transition. Certains sont en train de se dire que ça va être dur, y compris pour les catégories modestes. C'est bien de relooker les logements, de faire en sorte qu'ils ne soient pas des passoires. Oui. C'est bien de basculer brutalement dans les véhicules électriques. Vous avez vu le prix des véhicules électriques aujourd'hui ? Oui. Je parle d'entrée de gamme. Oui. Certains se disent que ce n'est pas le moment. C'est pas le moment. Alors c'est vrai que quand on a une réforme à faire, décaler de quelques mois, écouter davantage, passer par des modalités un peu différentes de celles qu'on a prévues, ça peut être difficile. Mais c'est peut-être ça le vrai
courage. Votre pronostic est peut-être prémonitoire. Pierre Ferracci, à l'instant, Elisabeth Borne dit entendre les interrogations et les doutes après une mobilisation massive. Voilà, il y a quand même...
C'est plutôt positif.
Je pense que c'est ça le courage en politique, c'est d'entendre de temps en temps ce qui vient, et puis après d'affirmer sa capacité à gouverner et de trouver les équilibres, ouais. Et de réformer le système des retraites, peut-être par une voie un peu différente.
On va suivre ça, bien évidemment. Donc, on le rappelle, deux journées de mobilisation la semaine prochaine, les mardis 7 donc, et samedi voilà. 11 février. Merci beaucoup, Pierre Ferracci. Merci de passer nous voir, expert en politique sociale, président du groupe Alpha. Merci beaucoup d'être passé ce soir sur BFM Business. 19h57, c'est fini pour aujourd'hui.
Oui, c'est l'heure de Tech & Co, Guillaume.
Dans un instant, avec François Sorel. Et nous, on se retrouve bien sûr demain, 18h, fidèle au poste pour de nouvelles
aventures. Et si vous souhaitez retrouver une partie de cette émission, vous cliquez sur le QR code qui s'affiche sur vos écrans ou bfmbusiness.fr.
Il est ici. Très bonne soirée, François Sorel, dans un instant.
Bonne soirée.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.